principal de cette conférence, c'est d'essayer de vous montrer que même dans le domaine de l'habitat, par rapport à des défis, et j'essayerai de passer un peu de temps sur ces défis qui sont des défis autour de l'énergie et de l'environnement, dont vous probablement avez entendu parler en écoutant la télévision ou en regardant des journaux, je vais un peu reprendre tout ça et vous montrer en quoi ces défis posent des problèmes vis-à-vis de l'habitat, ou plus exactement, l'habitat est en fait un enjeu très très fort. Vous avez peut-être tous entendu parler des Grenelles de l'environnement. Qui a entendu parler des Grenelles de l'environnement? Bon, ben je vois qu'il y en a quelques-uns, c'est très bien. Donc, par rapport à ça, ben vous verrez qu'effectivement, le monde de l'habitat et du bâtiment est un monde très concerné par ces débats. Vous l'êtes aussi, évidemment, dans les différentes filières que vous suivez. Alors, ça va durer à peu près une heure. Évidemment, cette partie-là, bon, j'espère vous intéressera, mais dans le débat que j'espère nous aurons à la fin, donc n'hésitez pas à noter des questions au fur et à mesure que vous m'écoutez, on peut aborder bien d'autres sujets, y compris, puisque c'est un peu le but de ces conférences, c'est d'essayer de vous montrer que les carrières techniques ou les carrières scientifiques ou les carrières technologiques sont des très belles carrières et qu'il y a des défis à relever, des choses passionnantes à faire en tant que professionnel dans ce milieu-là. Voilà. Donc je vais commencer. D'abord, il y a des petites choses bizarres, mais dans ma conférence, donc un peu humoristique, donc je vais vous distraire avec ça, mais la thématique, donc c'est l'habitat, et quand on pense habitat, surtout quand on est du monde de la recherche, on pense habitat du futur. Donc je vais parler un peu d'habitat du futur. Alors deux mots sur moi, et on pourra le reprendre un tout petit peu à la fin, je ne vais pratiquement pas en parler dans ma conférence, c'est juste pour vous donner une idée de qui je suis. Donc, j'ai fait des études, comme vous, j'ai passé le bac comme vous, j'étais d'ailleurs un élève pas brillant du tout, j'espère pas comme vous, donc je suis même en étant pas brillant, j'ai eu la chance, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, de poursuivre des études supérieures. Voilà, je vois que on va laisser rentrer vos camarades qui arrivent, comme ça ils vont pouvoir assister au début. Installez-vous, vous allez vous installer, malheureusement vous êtes obligé de vous installer dans les premiers rangs, vous n'avez plus le choix. On va laisser s'installer. Voilà. Voilà. Si vous voulez vous installer, il y a de la place aussi un peu sur la gauche. Si vous ne logez pas tous, voilà, vous allez tous loger, même les personnes qui ont eu des accidents du travail. Voilà. Bien, donc je reprends rapidement pour les nouveaux venus, qui sont d'ailleurs des nouvelles venues en grande partie, de ce que je peux voir, donc c'est très bien. Donc j'ai une carrière de chercheur. Ma conférence va parler d'énergie, environnement et autour de l'habitat. Hein. Donc j'ai prévenu déjà l'auditoire. Donc ma carrière est essentiellement une carrière de chercheur, donc chercheur du public. Donc j'ai fait une thèse dans le domaine des matériaux. Après mes études, je suis bordelais. Donc j'ai travaillé dans un laboratoire bordelais que j'ai dirigé pendant un certain temps, le centre de recherche Paul Pascal à Bordeaux, hein, qui est un grand centre autour de la physique et la chimie des matériaux. Et puis, au cours de cette carrière de chercheur, j'ai eu l'occasion de créer deux petites entreprises, qui sont des entreprises de technologie. Je ne reviendrai pas du tout dessus, on pourra en parler si ça vous intéresse. Hein. J'ai créé deux petites entreprises qui sont ce qu'on appelle des entreprises de haute technologie, qui développent ensuite des solutions. Ces deux entreprises, je les fais tout en étant chercheur au CNRS, donc en ayant ce parallèle entre les deux. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler toujours en étant chercheur au CNRS et toujours en étant dans un laboratoire à Bordeaux. Et donc j'ai séparé ma vie avec une partie à Paris et une partie à Bordeaux comme directeur scientifique adjoint de Rhône-Poulenc, qui est une grande entreprise de chimie, pendant quelques années. Et puis, plus récemment, en 2005, Jean-Luc Méfa, qui est le président directeur général, qui était président directeur général de Saint-Gobain, m'a demandé de rejoindre le groupe Saint-Gobain comme directeur de la recherche et du développement, où là, je suis à plein temps. Je suis toujours bordelais pour ma famille, je travaille à Paris et un peu partout dans le monde, mais je suis bordelais pendant le week-end, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'essaye d'intervenir dans des lycées locaux, parce que j'ai une grande affection pour cette région, où par ailleurs j'ai travaillé un peu au conseil régional pendant un certain temps. Voilà, Donc je ne vais pas du tout parler de moi, je vais surtout parler d'énergie, d'environnement et d'habitat. Donc je reviens à la thématique, et donc je disais tout à l'heure que quand on parle habitat du futur. Et quand on parle habitat du futur, est-ce que c'est possible d'éteindre les lumières? Parce que je pense qu'il y a... Ah, c'est moi qui est là, c'est moi qui pilote. Alors attendez, je vais essayer de faire ça sans faire de bêtises. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Donc, quand on dit habitat, et on parle habitat du futur, et quand on parle habitat du futur, vous pouvez penser plutôt à ce type d'habitat. Alors, je ne suis pas sûr que vous viviez tous dans des maisons de ce type, je ne vous souhaite pas forcément, mais vous verrez, et si vous arrivez à tenir jusqu'à la fin de la conférence, que je vais vous parler aussi de ces habitats-là. Alors ça, ce n'est pas des habitats du futur, mais vous verrez, en fait, c'est un propos important de ce que je vais dire, c'est que les habitats anciens, qui à l'époque n'avaient pas le pétrole, n'avaient pas les moyens énergétiques que nous avons aujourd'hui, avaient trouvé des solutions qui sont extrêmement astucieuses et qui sont reliées à des phénomènes physiques extrêmement intéressants, que j'essaierai d'expliquer très simplement. Et on est en train de redécouvrir ces astuces de ces habitats anciens dans les maisons modernes, parce que l'on cherche à faire des maisons modernes qui sont particulièrement économes en énergie. Donc je vais un petit peu essayer de décrire un peu tout ça dans ma conférence, et on reterminera par pourquoi ces habitats anciens sont des habitats qui mettaient en jeu des phénomènes qu'aujourd'hui, de façon moderne, on essaye de développer dans les maisons modernes, essentiellement pour économiser l'énergie. Donc je reviendrai là-dessus. Alors, je vais, en parlant habitat, il y a trois grands domaines dans l'habitat qui sont intéressants, et dans les maisons. Vous allez voir que je vais passer beaucoup de temps sur l'énergie et l'environnement, parce que c'est un défi et c'est un enjeu extrêmement important, pas seulement pour l'habitat, mais je vais essentiellement me centrer là-dessus. Et puis je parlerai, parce que c'est des choses qui sont importantes d'un point de vue sociologique, le fait que dans l'habitat, eh bien, il faut faire des progrès dans la flexibilité de la mise en œuvre. Ça, ce sont pour les artisans et les gens qui travaillent dans le domaine de l'habitat. Construire plus vite, construire mieux est quelque chose d'important, mais c'est aussi pour les utilisateurs finaux, et je vais décrire quelques produits qui tournent autour. Et puis évidemment, il y a quelque chose de très important dans le domaine de l'habitat, c'est l'esthétique, le confort et la décoration, et j'aborderai par le phénomène de l'éclairage un petit peu cette problématique. Alors, l'énergie et l'environnement d'abord. Alors, je pense que vous avez tous conscience qu'on vit, et si vous ne l'avez pas, en tout cas, je vous conseille de l'avoir, parce que c'est une période exceptionnelle du monde, on vit dans une période qui consomme énormément, dans des sociétés qui consomment énormément d'énergie. Un Français en France consomme une quantité incroyablement supérieure d'énergie à un Africain en Afrique, ou même Français, il y a de cela à peu près un siècle. C'est pas comparable du tout au niveau quantité d'énergie auquel vous devez avoir accès pour vivre, vous chauffer, vous déplacer, travailler et simplement avoir une vie normale. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça n'a pas toujours été le cas dans le monde dans le passé et je vais essayer d'illustrer. Alors cette courbe est une courbe peut-être que vous avez au moins entendu parler, au moins à la radio ou à la télévision. Je vais essayer de vous décrire ce qu'elle est. Ça s'appelle le peak oil. C'est de l'anglais, ça veut dire la quantité de pétrole que l'on extrait. Alors cette courbe, en fait, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la quantité de pétrole que l'on extrait tous les jours, donc dans le monde, vous l'avez ici classé par des grands pays, en fonction du temps. Et depuis qu'on a découvert le pétrole, alors je suis sûr qu'il y en a quelques-uns de vous qui ont dû lire Lucky Luke. Qui n'a pas lu Lucky Luke? Pas lu, hein? Qui a lu Lucky Luke? Bon, tout le monde, donc voilà. Donc vous avez tous lu Lucky Luke, c'est très bien. Et donc vous savez, si vous avez lu Lucky Luke, qu'on a découvert le pétrole au début du siècle. C'est évidemment il n'y a pas très longtemps. Donc début des années 1900. Et vous voyez que ce pétrole qui a été découvert au début du siècle dernier, tous les jours, on en extrait de plus en plus. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que ça s'appelle peak oil, c'est parce que cette courbe, elle a un maximum. Et ce maximum, c'est en ce moment. Aujourd'hui, tous les jours, on est en train d'extraire du pétrole au maximum de ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent. Et dans le futur, on extraira de moins en moins de pétrole. Ce qui a une conséquence claire, ça veut dire qu'on est en train d'épuiser, et je pense que vous en avez entendu parler, les ressources pétrolières de la planète. Pour vous dire en deux mots, le pétrole, c'est quelque chose qui se constitue en des millions d'années sous la Terre, par la décomposition de la matière organique. Ces millions d'années pour le faire vont être utilisées et consommées en 150 ans par les habitants de cette planète. Ça fait un peu plus de 100 ans qu'on extrait du pétrole en grande quantité. On est arrivé à peu près à la moitié des quantités de réserves. Et comme on a besoin de plus en plus, on ne va pas attendre de nouveau 100 ans pour l'épuiser. On va probablement, dans 40 ou 50 ans, les réserves de pétrole seront quasiment épuisées. C'est ce que montre cette courbe. Vous voyez qu'après 2010, cette courbe descend. C'est-à-dire que tous les jours, on extraira moins de pétrole que dans le passé. Alors ça, ça explique évidemment, en partie, mais pas seulement, le prix du pétrole, qui a beaucoup monté ces derniers temps, parce qu'on a pris conscience de ça. Il y a d'autres raisons pour l'augmentation du prix du pétrole. On pourra y revenir à la fin. Mais dites-vous que vous, probablement dans votre vie, et probablement certainement vos enfants, le pétrole naturel extrait de la Terre sera quelque chose qui n'existera plus. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas encore un liquide à mettre dans votre voiture pour la faire avancer. Là aussi, on peut débattre dans les questions si vous voulez. Mais ça veut dire que le pétrole extrait de la Terre, comme on le connaît, est quelque chose qui n'existera plus dans 40 ou 50 ans. Alors ça resitue un petit peu le débat autour d'énergie, et j'aimerais bien remettre ça dans un contexte un peu plus large. Alors voilà, j'ai repris cette courbe, et je l'ai mise sur une échelle de temps un peu plus grande qu'entre 1900 et 2100. Je l'ai mise, bon, j'ai pris arbitrairement le temps zéro, ça n'a évidemment de sens que pour les sociétés, certaines sociétés occidentales, mais toujours est-il que ça vous donne une idée, la naissance de Jésus-Christ, et puis ensuite... tout ce que vous avez appris en histoire, ça vous fait dire quoi? Ça vous fait dire que cette courbe de consommation, d'extraction et de consommation du pétrole, eh bien, finalement, c'est un accident de l'histoire. Il y avait une société avant la découverte du pétrole, il y avait une économie avant la découverte du pétrole, il y avait des produits, des transports et tout ce que l'on connaît aujourd'hui avant la découverte du pétrole, et bien évidemment, tout ceci existera après, et vous le connaîtrez. Donc la problématique de l'épuisement des ressources pétrolières, ce n'est pas une problématique de fin du monde, c'est une problématique d'adaptation de notre environnement à un phénomène qui est quand même quelque chose d'important, qui est la difficulté d'accès à cette ressource pas chère et pratique, cette ressource énergétique qui est le pétrole. Donc, simplement pour vous marquer que, en ce moment, on est en train de vivre dans l'humanité un tournant historique qui est celui d'arriver à commencer à voir la fin des réserves pétrolières, et de façon beaucoup plus générale, d'arriver à avoir la fin des matières premières. C'est-à-dire que derrière ce pétrole, il y a tout un tas d'autres conséquences sur lesquelles, de nouveau, si vous êtes intéressé, on peut revenir, qui est que ce n'est pas la seule ressource de matières premières accessible dans le monde dont on commence à voir l'épuisement. Le pétrole est une parmi d'autres. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, on a vécu dans un monde où on utilisait la Terre comme une réserve infinie de matière, de pétrole, mais bien d'autres choses. Vous allez vivre dans un monde où on va petit à petit épuiser ces réserves et il va falloir s'adapter à cet épuisement. C'est un point, je pense, qu'il faut retenir en tant que citoyen aussi. Voilà. Alors maintenant, ça, c'est une courbe extrêmement célèbre. Alors, vous la connaissez peut-être pas, même probablement pas, mais je vais vous la décrire parce que c'est cette courbe qui est à la base de tout le débat que vous entendez sur le changement climatique. Alors, qui a entendu parler de changement climatique? Voilà, je vois quand même que vous avez tous entendu parler pratiquement du changement climatique, et heureusement. Alors, d'où ça vient, ce débat sur les changements climatiques? Alors, ça vient, vous voyez, sur cette courbe, et vous avez les photos au-dessus qui vous montrent, ce sont des chercheurs qui vont dans des endroits où il y a des amas de glace très anciens, en gros, là, les endroits où il y a, comme le Groenland ou la Russie du Nord, des glaces qui se sont accumulées depuis des millions d'années, en tout cas des centaines de milliers d'années. Et en creusant, en sortant ce qu'on appelle des calottes, des carottes de glace, c'est-à-dire en les creusant et en allant très profond dans le sol, en fait, on récupère de la glace qui s'est accumulée là il y a 1000, 5000, 100 000, 1 million d'années. On arrive maintenant à remonter à des temps qui sont de l'ordre du million d'années. Là, vous avez cette courbe-là correspond à des temps qui sont de l'ordre de 400 000 années. C'est-à-dire que les carottes glaciaires les plus profondes que l'on a extraites, c'est de la glace qui s'est formée il y a 400 000 ans. Donc, remonter cette glace et l'examiner, c'est comme remonter dans le temps. Et lorsque vous remontez dans le temps, avec cette glace, vous êtes capable de mesurer deux choses. Bien d'autres choses, mais au moins deux choses. Vous êtes capable d'avoir des idées sur la température moyenne de la planète à cette époque. veux pas rentrer dans les détails, peu importe la technique, les chercheurs peuvent dire, en mesurant des choses sur cette glace, que la température moyenne de la planète était de telle température. À cette époque, c'est-à-dire il y a 400 000 ans ou 300 000 ans. De même, vous êtes aussi capable d'examiner la teneur de l'atmosphère, parce que cette glace, en se faisant, elle a emprisonné de l'air, et cet air dedans était composé d'un certain nombre de gaz, de l'oxygène et de l'azote, comme vous savez tous, mais d'autres gaz, et on peut mesurer la concentration de ces gaz et savoir ce qui se passait. En particulier d'un gaz qui est important, qui est l'oxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le CO2, qui est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre, je vais y revenir. Donc ce CO2, emprisonné à l'intérieur de l'air dans ces petites bulles, plus le fait que vous avez moyen d'avoir la température de la planète, eh bien, vous faites la corrélation entre les deux. La corrélation entre les deux, ça veut dire que vous mesurez les écarts de quantité de CO2 en fonction du temps. C'est les courbes qui montent et qui descendent, c'est la partie rouge. Et puis, vous mesurez aussi indépendamment, et c'est la partie bleue, la température de la planète. Et vous avez un phénomène qui a effectivement intrigué les scientifiques pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle une corrélation. C'est-à-dire que vous voyez que les pics et les vallées sont à peu près aux mêmes endroits dans le temps. C'est-à-dire qu'il existe une corrélation entre la quantité de CO2 dans l'air et la température moyenne de la planète. C'est pour ça qu'on vous explique partout qu'il faut contrôler les quantités de CO2 et qu'il y a eu ce qu'on appelle les accords de Kyoto, qui sont d'ailleurs en ce moment à Potsdam en train d'être renégociés, qui consistent à essayer de comprendre pourquoi cette corrélation existe, et surtout qu'à partir du moment où elle existe, plus il y a de CO2 dans l'air, plus la température de la planète peut éventuellement augmenter. Alors, il y a un débat autour de ça, de nouveau, je ne veux pas y rentrer, de nouveau, si on a du temps et que ça vous intéresse, on peut en parler un peu, c'est compliqué, mais toujours est-il que retenez qu'effectivement, quand la quantité de CO2 augmente dans l'atmosphère, la température moyenne de la planète augmente. Alors, quand on va à des périodes plus récentes, vous avez les mêmes courbes. Vous avez ici des quantités de CO2 et de la planète, et la température de la planète extraite, mais cette fois des échelles de temps qui sont les nôtres. Et vous voyez en particulier sur la droite que les deux se mettent à monter beaucoup depuis à peu près les années 1950. C'est-à-dire que depuis à peu près les années 1950, on produit de plus en plus de CO2, et on produit du CO2 en brûlant justement du pétrole ou du charbon ou du gaz, en brûlant ce qu'on appelle les énergies fossiles, qui, comme tout corps qui brûle, se transforme de carbone en oxyde de carbone et en H2O. Et cet oxyde de carbone que l'on forme quand on brûle du pétrole, du gaz ou du charbon, eh bien cet oxyde de carbone contribue de façon massive à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et donc déclenche éventuellement une augmentation de la température de la planète. Et si on augmente la température de la planète, vous savez qu'une simple augmentation de 1 ou 2 degrés de la température moyenne peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour certains endroits, liées entre autres à la fonte des glaces qui sont situées justement sur le Groenland, dans ce qu'on appelle les calottes glaciaires, mais aussi à des tas d'autres phénomènes que l'on commence à sentir un tout petit peu, qui sont des fluctuations très fortes du climat. Des hivers plus doux, des étés plus chauds, des tempêtes plus fréquentes, ce sont des modèles climatiques qui nous expliquent cela. Donc, vous voyez sur les photos le même glacier photographié dans les années. Alors, les photos, il y en a en 1928 et en l'an 2000. Vous savez tous qu'actuellement, les glaciers reculent dans l'hémisphère nord et que, actuellement, effectivement, il y a moins de glace stockée et que la banquise elle-même recule, fond. Il y a des possibilités maintenant d'avoir accès à des endroits qui n'étaient pas accessibles parce que bloqués par les glaces toute l'année, qui maintenant ne sont plus bloqués par les glaces. Alors, l'habitat, je reviens à l'habitat, maintenant que je vous ai introduit un petit peu cette notion, ou ces notions d'énergie et des conséquences environnementales. Vous voyez donc qu'il y a deux phénomènes qui, en fait, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui sont corrélés et qui vont dans la même direction. D'un côté, on épuise les ressources de l'énergie fossile, de l'autre, en les épuisant, on augmente la quantité d'un gaz à effet de serre qui s'appelle le CO2, et on augmente donc, par conséquent, la température moyenne de la planète. Et vous voyez que ça va dans le même sens, c'est que dans les deux cas, ça veut dire qu'il faut faire attention à la façon dont on utilise l'énergie. Cette énergie pas chère, facile d'extraction, on l'épuise, et en plus, elle a des conséquences néfastes sur le climat. Donc, à quoi sert l'énergie qu'on utilise ? À quoi sert le fait qu'on brûle du pétrole, du charbon ou du gaz ? Alors, ça sert à trois choses. Ça sert en gros à fabriquer des produits, y compris d'ailleurs des produits agricoles. Ça, il vous faut de l'énergie pour le faire. Ça sert à se transporter, des personnes et des biens, voitures, camions, trains, avions, bateaux. Et ça sert à l'habitat, c'est-à-dire ça sert à chauffer un amphithéâtre comme celui-là, et puis chez vous, votre maison. Et vous voyez que quand on regarde les quantités utilisées, vous verrez sur cette courbe quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en gros, ça fait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de l'énergie est utilisée pour se transporter, un tiers de l'énergie est utilisée pour fabriquer des produits, et un tiers, et même un gros tiers, en France c'est 42-43%, ça ce sont les chiffres de l'Europe, 42-43% de l'énergie sert en fait à chauffer nos habitats et nos bâtiments. Et ça veut dire qu'une très grande partie de notre énergie se retrouve consommée pour se chauffer ou en tout cas entretenir nos bâtiments. Alors quand on regarde de plus près et qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait de cette énergie dans les bâtiments, vous voyez sur cette courbe qu'en fait, ça sert à faire de l'eau chaude, ça sert à faire marcher nos appareils électriques, ça sert à faire de la lumière et ça sert à chauffer. Mais comme vous le voyez sur cette courbe, c'est de loin la partie chauffage, en tout cas en Europe, mais c'est vrai aussi pour les États-Unis, qui consomme le plus d'énergie. Et cette partie de chauffage qui consomme beaucoup d'énergie, elle correspond à peu près environ à trois quarts de l'énergie totale utilisée dans l'habitat. Alors juste quelque chose dont il faut vous souvenir si vous voulez partir avec une information forte là-dessus, c'est que aujourd'hui dans l'habitat, vous consommez à peu près autant d'énergie pour vous chauffer que l'ensemble des industriels qui fabriquent des produits, en consomment pour fabriquer des produits, ou l'ensemble de ce que vous dépensez au niveau transport. Alors il y a un point maintenant qui est très important. C'est que les pays occidentaux, et de nouveau les États-Unis en font partie, parce que les États-Unis sont un pays qui consomme beaucoup d'énergie, les pays occidentaux et les États-Unis qui en font partie, ont construit leurs habitats pour une grande part avant 1970. Alors pourquoi 1970 ? Parce que 1970, c'est ce qu'on appelle le premier choc pétrolier. C'est-à-dire c'est la première fois, ou pour des raisons d'ailleurs géopolitiques, c'était à l'époque la guerre entre Israël et les pays arabes, il y a eu un blocus du pétrole et le prix du pétrole s'est mis à monter de façon très importante. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé, alors moi je m'en souviens, vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que vous êtes nés pour la plupart après, c'est là que l'on a réalisé que le pétrole était une denrée dont on avait fortement besoin. Et donc, à ce moment-là, on s'est mis à se préoccuper de fabriquer des habitats un peu moins énergivores, comme je vous l'ai montré au début. Donc vous voyez ici que si aujourd'hui l'ensemble des maisons avaient été fabriquées après 1970, en tout cas, si toutes les maisons étaient fabriquées avec les méthodes modernes de fabrication et les normes modernes de fabrication, eh bien, cette partie de chauffage qui est importante diminuerait de façon énorme. Pratiquement, serait de l'ordre de 6 à 7 fois moins importante. Donc, retenez qu'une chose, aujourd'hui, parce que c'est un peu la conséquence de toute la réflexion sur les grenelles de l'environnement, c'est aussi la conséquence de bien d'autres pays qui ont eu la même démarche et qui ont réfléchi de la même façon. Aujourd'hui, si on était capable de construire l'ensemble de nos habitats comme on construit des habitats modernes, on économiserait autant d'énergie que ce que l'on consomme pour faire les produits manufacturés ou que ce que l'on consomme en transport. Avec cette différence essentielle, qui est importante, c'est que si aujourd'hui on arrête de fabriquer des produits, votre vie elle sera fortement changée. Si aujourd'hui on arrête de se transporter, notre vie sera fortement changée. Si aujourd'hui on vit dans des habitats qui sont plus économes au niveau énergétique, eh bien c'est un plus, on vit plus confortablement, on dépense moins d'argent pour se chauffer et la vie en est facilitée. Donc vous voyez là la conséquence directe de cette réflexion sur l'énergie et l'environnement, c'est que aujourd'hui on gaspille énormément d'énergie dans nos bâtiments pour se chauffer, et que cette quantité importante d'énergie que l'on dépense, si on pouvait l'économiser, ça serait un effort fantastique au niveau de la société, à la fois pour économiser l'énergie, mais aussi pour évidemment dégager moins de CO2 dans l'atmosphère et répondre au problème en partie du changement climatique. Donc c'est cette réflexion qui a conduit un certain nombre de pays à prendre des mesures sur l'habitat et à décider qu'il fallait effectivement d'urgence essayer de, et je crois que le président de la République a fait des annonces hier, hein, sur le logement, sur l'amélioration des logements, parce que justement on est face à ces défis. Voilà, j'ai passé un petit peu de temps et du coup je vais peut-être raccourcir les autres parties de ma conférence, mais je pensais que ça valait le coup de discuter un petit peu de ça sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, on peut isoler nos habitats. Ensuite, on peut essayer de trouver des énergies renouvelables. Donc, je vais passer un peu des slides rapidement. Je ne vous les commenterai pas pour gagner du temps sur la présentation et qu'on ait le temps de débattre. Je vais essayer d'aborder deux choses. Le problème de l'isolation des maisons et des matériaux qui vont avec. Donc, je vais passer assez rapidement. Et puis, je parlerai aussi d'énergie photovoltaïque, d'énergie renouvelable, d'énergie solaire en général, parce que je pense que c'est l'énergie du futur. Et c'est la seule, en tout cas, qui peut répondre aux défis que j'ai essayé d'exposer dans cette première partie. Alors d'abord, isoler une maison. Alors vous avez ici une photo en caméra infrarouge. Alors qu'est-ce que c'est qu'une caméra infrarouge ? C'est une caméra qui vous dit combien vous perdez par rayonnement au niveau de la chaleur. Oui, c'est ça. Bon, combien vous perdez par rayonnement au niveau de la chaleur ? C'est-à-dire que, grosso modo, moins vous isolez votre maison, plus elle rayonne à l'extérieur, et plus votre caméra infrarouge vous transforme ce rayonnement dans une couleur qui est rouge ou jaune ou verte. Et puis quand c'est bleu, c'est plutôt que vous rayonnez moins. Donc vous avez ici un bâtiment, avant d'être rénové à gauche, après être rénové à droite, et vous voyez qu'évidemment, les couleurs sont beaucoup plus sombres quand avec cette caméra quand c'est à droite, donc vous perdez beaucoup moins d'énergie. Donc c'est le but de l'isolation, c'est d'empêcher votre bâtiment de perdre de l'énergie. Alors je vais vous raconter d'abord une petite histoire. Ça c'est une maison en Autriche. Cette maison a été construite dans les années 60, donc avant la première crise pétrolière, et les habitants de cette maison, eh bien, ils avaient un gros réservoir de gaz, parce que évidemment c'est une maison qui n'est pas très bien isolée, il fallait beaucoup d'énergie pour la chauffer pendant l'hiver, et donc il y avait pas mal de gaz. Alors ils ont décidé de la rénover en faisant ce qu'on appelle une maison passive, c'est-à-dire une maison qui consomme très peu d'énergie. Alors, ils ont ôté les radiateurs, ils ont ôté la cheminée, et voilà le résultat. Avant, après. Vous voyez, ça vaut le coup de rénover ces maisons. Et puis en plus, ils dépensaient 2 700 € par an pour se chauffer, et après, ils ne dépensaient plus que 200 € par an pour se chauffer. Donc en plus, ils faisaient des économies. Voilà, c'est juste pour illustrer le fait que ça vaut le coup de rénover sa maison. Voilà, il existe des tas de solutions, et je ne vais pas les détailler, d'isolation, ce n'est pas le but. Sachez simplement que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses qui existent et qui peuvent être améliorées. Il y a des choses comme, par exemple, comme il n'y a personne du bâtiment, je pense, dans la salle, personne ne fait des études dans le bâtiment, dans cette salle, je vais passer sur les aspects techniques, par exemple, des isolations par l'extérieur, qui sont des techniques compliquées, mais qui permettent d'être, de rénover bien les bâtiments anciens. Et on a besoin de matériaux super isolants, donc les chercheurs dans mon entreprise, mais aussi ailleurs, travaillent pour trouver des matériaux qui ont des propriétés d'isolation très bonnes. Je passe sur ces matériaux. Mais ça ne suffit pas d'isoler les murs. Il faut aussi isoler les vitres, parce que vous savez qu'un bâtiment, c'est fait de murs et de vitrages. Et les vitrages, c'est un endroit qui est plus difficile à isoler que les murs. Alors, vous avez ici quelques-uns des projets. Je vois que c'est toujours le même qui se déplace. Enfin, il va finir tout en haut, hein. Voilà. J'espère que tu auras plein de questions à la fin, parce que comme tu écoutes beaucoup, ça vaut le coup. Hein. Bon. Donc, j'ai enseigné dans ma jeunesse, quand même. J'ai fait des études d'enseignant. Malheureusement pour vous, c'est terrible. Bon. Donc, les vitrages, vous voyez ici les projets dans lesquels, au niveau de Saint-Gobain, nous sommes engagés. Et vous voyez des vitrages qui sont extrêmement importants dans des immeubles. Donc, il ne suffit pas d'isoler les murs, il faut aussi isoler les vitres. Alors, évidemment, il y a quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en France, c'est le triple vitrage. Et le triple vitrage est une très bonne façon d'isoler. Je passe aussi un peu vite là-dessus, parce que je veux garder du temps pour la partie photovoltaïque. Alors, je vais passer aussi là-dessus, c'est quelque chose d'intéressant, mais malheureusement. Alors, il y a des nouveaux matériaux qui existent dans la construction. Et je mets le bois dans les nouveaux matériaux, parce que je fais partie des gens qui croient que le bois est un matériau qui a un vrai avenir. Alors, vous êtes, pour quelques-uns d'entre vous, dans des filières agricoles. Sachez que le bois, comme matériau de construction, est quelque chose qui va être de plus en plus important, parce qu'on améliore les traitements du bois, et ça permet d'envisager de faire des choses très intéressantes. Mais le vert l'est aussi. Alors là, vous avez quelques projets qui sont assez intéressants. Vous avez en particulier la gare de Strasbourg. Qui connaît la gare de Strasbourg depuis qu'elle a été rénovée? Qui est allé depuis qu'elle a été rénovée? Bon, donc la photo te dit quelque chose. La gare de Strasbourg, qui est un bâtiment du 19e siècle ancien et qu'il n'était pas question de démolir, elle a été recouverte d'une sorte de peau, d'une bulle en verre, pour pouvoir à la fois augmenter la surface accessible dans la gare, mais aussi améliorer les propriétés thermiques du bâtiment. Donc dans des bâtiments anciens, on peut rajouter des pots en verre pour essayer d'isoler mieux l'ancien bâtiment qui lui-même n'est pas forcément facile à isoler. Voilà. Alors le bois, je vous le disais, le bois est un matériau d'avenir. Je pense qu'on va revoir des maisons en bois. C'est déjà le cas dans le nord de l'Europe, c'est déjà le cas aux États-Unis. Je pense que même en France, on en verra de plus en plus. On peut faire des rénovations aussi avec des parties seulement de notre maison qui est en bois. Vous pouvez mélanger construction traditionnelle et construction en ossature bois. Et puis il y a d'autres matériaux, comme les matériaux plastiques. Alors vous voyez, ces grands stades, vous avez des toits blancs, vous avez peut-être déjà vu, il y en a un que vous avez certainement vu, je vais y revenir tout à l'heure, se sont faits avec des matériaux plastiques qui sont ce qu'on appelle des polymères fluorés, qui recouvrent des grandes surfaces avec des toiles, un peu comme des toiles de tente, et qui permettent de protéger des bâtiments. Celui-ci, vous le connaissez, c'est le stade nautique de Pékin, que vous avez probablement tous vu à la télévision cet été. C'est fait justement avec des matériaux plastiques, avec des polymères fluorés, plus un éclairage un peu spécial sur lequel je vais revenir, et ça vous donne ce magnifique stade nautique qui a, je pense, pour à la fois les gens qui adorent la natation, mais les autres aussi, les gens ont pu vivre des moments tout à fait exceptionnels. Voilà. Et puis alors, il y a des choses, ça je ne l'ai pas fait pour vous, hein, je le montre en général dans toutes mes conférences, vous avez des parois un peu spéciales, qui sont les parois végétales, où vous faites pousser des végétaux à la verticale, sur des murs. Voilà quelques-uns des projets qui existent. Et ces parois végétales ont un certain nombre, en particulier les toits végétaux, un certain nombre d'avantages pour des tas de raisons, et sur lesquels on voit se développer un certain nombre de solutions, en plus d'être esthétiques. Voilà. Alors, quelques méthodes pour économiser l'énergie en dehors de l'isolation. Vous avez le puits canadien. Qui a entendu parler du puits canadien ou du puits provençal? Quelques-uns. Non, c'est bien, j'en ai. C'est bien parce que c'est des techniques qui sont relativement à la fois anciennes, donc je vais vous montrer une nouvelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le puits canadien? C'est le fait, quelque chose que vous connaissez tous, surtout dans ce pays. Vous savez que quand vous allez dans une grotte, dans une cave, ne serait-ce qu'une cave de maison, la température est différente de la température de l'air extérieur. Dans le sol, à l'intérieur du sol, à quelques mètres, même dès un mètre ou deux, la température est de l'ordre de 12 ou 14 degrés, même quand il fait moins 3 ou moins 4 en hiver, ou plus 20, plus 30, plus 40 en été. Donc la température du sol est assez constante et elle est en général autour de 12 ou 14 degrés. L'idée, c'est que si vous prenez de l'air extérieur qui est à moins 5, et avant de le mettre dans votre maison, traditionnellement, vous allez prendre de l'air extérieur, vous allez chauffer dans votre maison, et si vous mettez une cheminée ou n'importe quoi d'autre, elle prend l'air qui est à l'extérieur, vous le chauffez pour vous chauffer votre maison. Vous chauffez en fait l'air qui est à l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur, parce que vous avez une ventilation. L'idée, c'est d'utiliser cette ventilation, mais d'abord de la faire passer par le sol, de façon à ce que la température de cet air qui rentre dans votre maison ne soit pas moins 5, mais soit 12 ou 14 degrés, en ayant un échange avec le sol et en se mettant en température. Et vous voyez que si vous chauffez de l'air de 12 à 14 degrés pour l'amener à 20 degrés, ou si vous chauffez de l'air à moins 5 pour l'amener à 20 degrés, évidemment, il faut beaucoup moins d'énergie. Ça s'appelle le puits canadien. Et en été, vous avez l'équivalent, ça s'appelle le puits provençal, c'est simplement les régions qui diffèrent, où pendant les étés très chauds, où il fait 40 degrés, vous refroidissez l'air extérieur à 14 ou 15 degrés avant de le rentrer dans la maison, et ça vous permet de rafraîchir votre maison. Vous voyez, ici, des courbes de température jour-nuit faites en fonction du temps, et vous voyez que en vert, lorsque vous êtes équipé d'un puits canadien, les températures fluctuent beaucoup moins, il fait beaucoup plus de température constante autour de 20 degrés à l'intérieur de votre habitat. Et puis vous avez la pompe à chaleur. Alors, de nouveau, qui a entendu parler de pompe à chaleur? Voilà, très bien, beaucoup plus de gens qui connaissent la pompe à chaleur. Alors, qui est en fait, dans le cas de la pompe à chaleur géothermique, une déviation par rapport au puits canadien, dans ce sens que vous utilisez le sol comme un réserve de calories pour chauffer votre maison. Alors une pompe à chaleur, je ne vais pas vous décrire ce que c'est, mais souvenez-vous simplement que vous en avez tous une dans votre maison, c'est un frigidaire. La pompe à chaleur, c'est en fait un frigidaire à l'envers. Dans le frigidaire, vous sortez de la chaleur de l'intérieur du frigidaire pour refroidir et vous êtes tous passés derrière un frigidaire, vous savez qu'il est chaud, et vous chauffez en fait la pièce où vous êtes. Donc un frigidaire chauffe la cuisine. Et là, vous faites l'inverse. Vous extrayez de la chaleur du sol pour chauffer votre maison. Et ça permet en gros de faire des économies d'énergie d'un facteur 3 par rapport à la même quantité d'énergie qu'il vous faut pour chauffer. Donc c'est une façon plus économe de chauffer un habitat. Bon, je vais passer ça parce que la pile à combustible c'est trop compliqué et puis je voudrais gagner du temps. Sachez qu'en Norvège, puisque nous on en vend, hein, Saint-Gobain vend en Norvège par une société de Vendal ce type de phénomène, vous pouvez vous équiper d'une petite centrale hydraulique. Si vous avez une maison et que vous avez un ruisseau qui passe pas loin et que ce ruisseau est à hauteur, vous pouvez acheter des tuyaux, une petite turbine et produire votre électricité de façon hydraulique directement et vous avez vous-même votre génération électrique comme si vous étiez un petit barrage ou des conduites forcées que vous avez dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Ça existe, vous pouvez le faire en Norvège. En France, je ne suis pas sûr que ce soit permis. Alors voilà, je voulais garder un peu de temps pour parler du solaire. Alors, l'énergie, vous voyez un peu le raisonnement, on épuise nos réserves d'énergie, on en renvoie du CO2, donc il faut économiser. C'était toute la première partie de ma présentation. Mais il faut aussi se préparer au futur. Même si on économise, on va finir par épuiser les réserves énergétiques qu'on a. De toute façon, c'est irréversible. Donc il faut avoir accès à des sources d'énergie qui sont ce qu'on appelle renouvelables, c'est-à-dire qui permettent de récupérer cette énergie ou de la retrouver quand on l'utilise. La grande rame des matières fossiles, c'est quand vous l'avez brûlée ou l'avez fait disparaître, qu'elles mettent des millions d'années à se constituer, vous les brûlez, comme on l'a vu, en quelques dizaines d'années. Donc il y a un problème simplement de temps entre la fabrication et le temps de la consommation. Donc une énergie renouvelable, c'est une énergie où le temps pour la faire est à peu près le même que le temps pour la consommer. Donc elle peut être renouvelée. Alors je vais vous parler d'énergie renouvelable, pas de solaire, je vais vous parler aussi de biomasse, puisque je vais garder cette partie-là, puisque vous êtes des gens qui sont particulièrement concernés par ce monde-là, pour certains d'entre vous. Alors le solaire, vous avez le solaire thermique, ça c'est quelque chose qui est classique, vous avez probablement tous entendu parler, vous mettez ça sur le toit de votre maison, vous avez de l'eau qui circule dans un corps noir, quand il y a du soleil, ce corps noir chauffe l'eau, et vous avez votre eau chaude qui est préparée comme ça par des installations de ce type. C'est une transformation directe du rayonnement du solaire en chaleur pour chauffer de l'eau. Alors vous avez des choses qui commencent à exister, qui sont très intéressantes. Alors, je vais d'abord vous faire passer une information parce que je suis pas sûr que tout le monde le sache. Est-ce que vous savez comment on produit l'électricité ? Oui, tout à fait, nucléaire. Et qu'est-ce que fait l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité ? Ah bah vous savez, je suis alors là. Chapeau, hein, vous savez tout, vous allez faire la conférence à ma place. Oui, on chauffe de l'eau. Qu'on mette du gaz, qu'on mette du pétrole, qu'on mette du nucléaire ou du soleil, on produit de l'électricité en chauffant de l'eau qui se vaporise et qu'on fait passer dans des turbines qui tournent et avec une dynamo comme sur votre vélo, vous produisez de l'électricité. Bon, c'est la façon classique de produire de l'électricité. Vous pouvez le faire avec du soleil. Ce que vous avez là, c'est des miroirs paraboliques qui concentrent le soleil sur un tube. Vous voyez, au milieu de ces miroirs, vous avez un petit tube. Dans ce tube, vous mettez un liquide. Ce liquide est chauffé à très haute température, 400 degrés, par le soleil qui rayonne sur ce tube. Et ce liquide à 400 degrés vous permet de chauffer de l'eau et de faire, comme une centrale nucléaire ou comme du gaz, fabriquer de l'électricité. Sachez que ça se développe beaucoup en Espagne. Il faut, pour que ces centrales soient efficaces, du soleil et du terrain pas cher. C'est évidemment des choses qui existent dans les endroits un peu désertés. C'est pour ça qu'en particulier, on va voir ce type de centrale se développer dans des pays qui sont ou qui ont une partie en désert. Et puis, vous avez l'énergie photovoltaïque. Alors justement, l'énergie photovoltaïque, c'est le seul cas où vous ne produisez pas de la chaleur pour fabriquer de l'électricité, mais vous avez une conversion directe du rayonnement du soleil, donc de la lumière, si vous voulez, directement en électricité. Ça s'appelle un effet photoélectrique. Je vous rappelle pour certains que c'est ce qui a valu à Einstein le prix Nobel pour ses travaux dans un article célèbre, il y en a eu plusieurs, de 1905. Donc, cet effet photoélectrique consiste à ce que les rayons du soleil viennent arracher les électrons qui sont à l'intérieur de votre matériau, et ensuite vous pouvez récupérer ces électrons et les faire passer par l'extérieur et obtenir comme ça de l'électricité. C'est donc une conversion directe de la lumière en électricité sans passer par l'étape que je viens de vous décrire précédemment, de faire de la chaleur. Donc cette énergie photovoltaïque, elle permet en particulier de fabriquer de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur votre toit, dans votre champ, un peu partout. Voilà par exemple un champ de production d'électricité. Et alors ce qui est intéressant dans le photovoltaïque, c'est que les terminologies qui sont utilisées sont des terminologies agricoles. Vous avez des champs photovoltaïques et vous faites de la récolte d'électricité. C'est exactement les mêmes termes que ceux du monde agricole. Alors, vous pouvez aussi les mettre sur les toits. Alors, il y a deux grands défis auxquels l'énergie photovoltaïque doit faire face. Le premier, c'est de faire baisser le coût de fabrication de ces panneaux solaires, parce que quand le coût sera suffisamment bas, ça deviendra une méthode de production compétitive par rapport à celle de brûler du gaz ou de brûler du pétrole ou de brûler du charbon, moins par rapport au nucléaire, parce que le nucléaire a un coût qui est très très bas, mais un jour viendra où ça sera éventuellement plus bas aussi que de fabriquer de l'électricité par nucléaire. Et puis l'autre défi, c'est qu'il faut intégrer ça sur les toits. Vous voyez ici que l'énergie photovoltaïque en fait été inventée lorsqu'on a commencé à envoyer des satellites, dans les années 50. Quand vous envoyez un satellite dans l'espace, vous n'avez pas moyen de le ravitailler en énergie. Vous ne pouvez pas mettre un fil électrique qui lui envoie de l'électricité, vous ne pouvez pas lui mettre un réservoir d'essence qui fait tourner un moteur. Donc il fallait bien une source d'énergie pour faire fonctionner le satellite. Et cette source d'énergie, c'est l'énergie photovoltaïque. Et vous voyez qu'avoir des toits modernes qui ressemblent à des satellites, ce n'est pas forcément esthétiquement l'idéal. Donc il y a un problème d'intégration de cette énergie, qui sont des panneaux photovoltaïques au toit. Et vous avez ici une société allemande qui fabrique des toits qui sont multifonctionnels, qui à la fois peuvent être fabriqués de l'eau chaude avec du solaire thermique, du photovoltaïque, avoir une possibilité d'aération, c'est le toit complet qui, lui, est fonctionnel. C'est une des voies qui se développera. Puis là, vous avez une société avec qui on travaille qui fait des tuiles photovoltaïques qui permettent d'installer sur le toit. Voilà. Alors, et la biomasse? Alors, parmi les énergies renouvelables, il y a évidemment la biomasse. Alors, pourquoi est-ce que la biomasse est une énergie renouvelable? Ben parce que vous savez que dans le cycle, alors ça, c'est vous qui allez m'apprendre des choses, vous en savez probablement plus que moi, mais vous savez que c'est le cycle du carbone, le CO2 dont on parlait tout à l'heure, qui est produit lorsque vous brûlez des énergies fossiles, est consommé par les plantes pour être utilisé au niveau du carbone pour faire ce qu'est la plante, c'est-à-dire des sucres, de la cellulose, et puis évidemment les fruits ou les graines qui sont produites par la plante. Donc ce CO2 est en fait consommé par les plantes. Donc, les plantes stockent en quelque sorte dans le cycle du carbone, ils stockent la partie que vous brûlez lorsque vous brûlez des énergies fossiles. Et là par contre, contrairement aux énergies fossiles, le cycle c'est pas un million d'années pour produire et quelques dizaines d'années pour consommer. C'est le même. Quand vous faites une récolte annuelle, tous les ans votre plante repousse et si vous la brûlez, vous allez remettre la même quantité de carbone qui a été utilisée par la plante pour pousser, vous allez le remettre dans l'atmosphère. Donc ce sont des cycles courts. C'est pour ça que les plantes ne sont pas comptées dans les accords de Kyoto. Lorsque vous brûlez du bois ou lorsque vous brûlez des plantes, vous ne produisez pas de CO2 à effet de serre. Ce n'est pas que vous n'en produisez pas, vous en produisez tout autant que quand vous brûlez du pétrole, mais ce CO2 n'est pas comptabilisé parce que vous allez faire repousser vos plantes. Et donc, ils vont consommer autant de carbone par du CO2 que vous en avez émis en brûlant. Donc, c'est un point très important, et c'est pour ça que la biomasse est intéressante. C'est pas que vous ne produisez pas de CO2 quand vous brûlez ou vous consommez de la biomasse, c'est que cette biomasse, ce CO2 est tout de suite réutilisé dans une autre biomasse à partir du moment où vous engagez à renouveler, bien évidemment, les plantations au fur et à mesure que vous les consommez, ce qui est quand même le but de la matière agricole. Alors, il y a deux sortes de biomasse. Alors là, vous êtes peut-être... Qui a entendu parler de biomasse de première génération et de biomasse de deuxième génération? Quelques-uns. Je vais passer un tout petit peu de temps pour vous expliquer ça. Alors, en fait, vous le savez. Vous allez voir, vous avez des tas de choses que vous savez. La biomasse de première génération, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est anciennement deux choses. C'est de l'alcool que l'on fabrique à partir du sucre. Alors ça, vous connaissez tous, par la fermentation. Hein, la betterave, la canne à sucre produisent du sucre. Ce sucre peut être fermenté et transformé en alcool. Et cet alcool peut être mis dans les moteurs à essence pour faire fonctionner les moteurs à essence. Vous savez tous qu'au Brésil, vous savez peut-être qu'au Brésil, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, vous allez à la pompe, vous avez une pompe d'essence et une pompe d'alcool, et votre voiture, la même que vous avez chez vous, les mêmes voitures, peut aussi bien marcher à l'essence normale ou à l'alcool. Et en fait, elle peut même marcher avec n'importe quelle proportion d'alcool ou d'essence. En fait, les Brésiliens, ils achètent, quand ils vont à la pompe, ils regardent lequel est le moins cher, et ils achètent ce qui est moins cher, du pétrole ou de l'alcool, et ils le mettent indifféremment dans leur réservoir. Donc cet alcool qui provient du sucre est, est une partie de la biomasse de première génération. Puis il y a une autre biomasse de première génération, que vous connaissez probablement tous aussi, c'est les huiles classiques, les huiles que vous produisez avec du tournesol ou d'autres plantes, et ces huiles peuvent être utilisées en fait à la place de l'essence diesel, et marchent tout à fait, moyennant quelques adaptations, donc il faut en général, même si ça fonctionne un peu avec des moteurs classiques, il vaut mieux mettre quelques éléments qui les modifient, fonctionnent à la place du diesel. Donc essentiellement, la biomasse de première génération, c'est soit de l'alcool qui provient du sucre, soit des huiles qui sont des huiles de consommation alimentaire. Et c'est justement ça le problème. Vous avez probablement entendu parler du débat qui a eu lieu en France, mais aussi dans d'autres pays, sur le fait que l'utilisation à des fins énergétiques de la biomasse de première génération, autrement dit, utiliser de l'alcool ou des huiles pour faire rouler votre voiture, a des conséquences parce qu'il rentre en compétition avec l'alimentaire. C'est-à-dire le fait de se retrouver aujourd'hui en compétition entre la production énergétique et la production alimentaire pose un problème. Premier problème, ça fait monter le prix des aliments. Deuxième problème, c'est quand on réfléchit aux surfaces qu'il faut cultiver pour arriver à satisfaire la production d'essence, ne serait-ce que pour les voitures, les surfaces sont monstrueuses et ne sont pas du tout raisonnables par rapport aux surfaces qu'il faut utiliser pour produire de la nourriture. Donc, clairement, la biomasse de première génération, ça existe, ça peut être utilisé, mais ça ne peut pas être une solution majeure parce qu'elle est en compétition avec le monde alimentaire. La biomasse de deuxième génération, elle, est un véritable enjeu. Alors qu'est-ce que c'est que la biomasse de deuxième génération ? Ben, c'est justement d'utiliser dans la plante ce qui n'est pas consommé pour les aliments. Quand vous semez du maïs, vous consommez des graines et les épis de maïs. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Vous savez peut-être mieux que moi. Qu'est-ce qui peut me dire ce qu'on fait des épis de maïs à la fin ? Là, j'en vois encore qui vont être coupés dans quelques temps. Qu'est-ce qu'on en fait après la récolte ? Hein ? On en fait ?
On les remet dans le sol.
On les remet dans le sol. C'est très bien. Si on les remet dans le sol, ça fait du nouveau du CO2. Ça fait de l'engrais pour les suivants, en se décomposant. Ça met un certain temps. Bon, peu importe ce qu'on en fait, en tout cas, on ne les utilise pas. C'est une matière perdue. Et si on était capable, et c'est ça l'enjeu de la biomasse de deuxième génération, quand vous prenez une matière carbonée, c'était vrai avec le gaz, avec le charbon dans le temps, mais c'est tout à fait vrai avec la cellulose des plantes, maintenant le bois, les épis de maïs, etc. Si vous les montez à très haute température, donc il faut le monter à très haute température, à ce moment-là, vous produisez un gaz qui s'appelle le gaz de synthèse. C'est-à-dire que cet épi de maïs, ce carbone qui est stocké, se décompose en hydrogène et en oxyde de carbone, en monoxyde cette fois de carbone. Et ce mélange d'hydrogène et de monoxyde de carbone, qu'on appelle le gaz de synthèse, il peut être utilisé pour faire chauffer. C'est du gaz qui a exactement les mêmes propriétés que le gaz de vivre, le gaz méthane, celui qui est récupéré dans le sol. D'ailleurs, c'est comme ça que l'on faisait du gaz, à partir du charbon, avant qu'on découvre le gaz qui a été stocké dans le sol. Donc avant qu'on utilise du gaz qui est du méthane qui est stocké dans le sol, on fabriquait des gaz de synthèse à partir du charbon. On peut tout autant fabriquer des gaz de synthèse à partir de la biomasse, donc à partir des déchets agricoles. À ce moment-là, ce gaz de synthèse, vous pouvez lui faire subir une transformation supplémentaire, c'est-à-dire le faire par une réaction chimique, qui sont le même type de réaction chimique que les pétroliers utilisent quand ils font des réactions de cracking dans leur raffinerie. Donc c'est des choses que l'on connaît. Ce gaz de synthèse, il peut fabriquer de l'essence par réaction chimique catalytique. Donc avec ce gaz de synthèse, vous pouvez fabriquer des molécules qui sont exactement les mêmes que les molécules d'essence. Et cette fois, ces molécules d'essence, vous n'allez pas les faire fabriquer à partir de l'huile ou de l'alcool, vous allez les fabriquer à partir de la cellulose des plantes qui, elle, n'est pas consommée au niveau alimentaire. C'est pour ça que la biomasse de deuxième génération est plus intéressante que la biomasse de première génération. Bien, alors, je vois qu'il est... Il est 3h30. Je vais passer assez vite sur 2-3 petits points pour qu'on ait le temps de débattre. Alors d'abord ça, je mets ça parce que j'ai fait une conférence en Angleterre et donc j'ai raconté un peu la même chose. Et puis alors les gens qui m'avaient écouté m'ont renvoyé cette image bien évidemment humoristique. Alors vous avez tous compris ce qui est écrit en anglais. en me disant non, que tout ce que je racontais c'était faux, c'était pas à cause de l'homme que le changement climatique est dû, c'était les ours qui avaient des habitudes bizarres. Bon, voilà, c'était un point de vue. Bon, je vais passer ces slides parce que ça va être trop long. Désolé pour ça. Et, hop, je suis allé trop vite. Alors, il faut aller en arrière. Alors, on va passer la même chose en arrière. Allez, on va parler d'éclairage. Alors, l'éclairage, c'est certainement dans le domaine de l'habitat une des révolutions auxquelles vous allez assister. Vous y assistez pas encore, mais ça va venir. Comment est-ce qu'on s'éclaire ? Ben d'abord, on s'éclaire en brûlant du bois, en brûlant historiquement, en brûlant de la paraffine, en faisant une flamme qui, parce que c'est un gaz porté à très haute température, éclaire et émet de la lumière. La lampe d'Edison, c'est un énorme progrès, c'est la lampe classique que vous avez dans vos habitats, ça fait passer de l'électricité dans un petit filament qui est porté à très haute température, et ce filament qui est porté à très haute température, il émet par rayonnement de la lumière, et c'est ce qui vous permet d'éclairer. Mais tous ces systèmes-là, c'est 98% de consommation de chauffage et 2% pour éclairer. Une lampe d'Edison, c'est un appareil de chauffage qui éclaire, et c'est pas du tout un appareil d'éclairage qui chauffe. C'est 98% de l'énergie est utilisée pour chauffer et 2% pour éclairer. On arrive maintenant à faire ce qu'on appelle les éclairages électroniques. Alors c'est quoi les éclairages électroniques ? C'est en fait la même chose que vous faites quand vous faites n'importe quel petit système électronique, donc ce qu'on appelle des puces hein, ou des transistors. Vous mettez deux morceaux de semi-conducteurs, qui sont le silicium, vous avez tous entendu parler du silicium, et vous mettez ça avec un qui a un peu trop d'électrons, un qui n'en a pas assez, vous faites ce qu'on appelle une jonction. Et entre les deux, les électrons aiment bien passer de l'un à l'autre. Eh bien, le système d'éclairage moderne, c'est ce qu'on appelle des LED, c'est-à-dire des Light Emitting Diodes, et ces LED, elles sont formées avec des électrons, exactement comme n'importe quel système électrique, qui passent d'un semi-conducteur à l'autre. Et entre les deux, vous mettez un matériau qu'on appelle électroluminescent, quand il voit passer un électron, il émet de la lumière. C'est exactement l'inverse de l'effet photovoltaïque. L'effet photovoltaïque, quand vous recevez de la lumière, vous mettez en route des électrons. Ben là, c'est quand les électrons sont en route, vous émettez de la lumière. Donc ce sont des matériaux qui sont développés et qui existent. Alors vous avez deux sortes d'éclairage électronique. Vous avez les LED. Et les LED, je pense que vous en avez tous vu, vous en avez tous eu. Maintenant, c'est des petites lampes très puissantes que vous pouvez actionner avec des quantités d'énergie très faibles. Et vous commencez à avoir des voitures qui sont équipées de LED, vous commencez à avoir un certain nombre d'endroits. Mais vous avez quelque chose qui est en train de se préparer, qui va probablement, vous allez voir vous, dans votre vie, même probablement moi aussi je le verrai, je l'espère en tout cas, c'est les OLED. Les OLED, c'est la même chose que les LED, sauf que c'est fait avec des matériaux organiques. Organique, ça veut dire que c'est un peu comme de la peinture. Donc la façon un peu simple dont on peut faire une OLED, c'est vous prenez une surface transparente qui conduit un peu l'électricité, et vous mettez trois couches de peinture qui sont faites avec des matériaux différents, vous fermez ça par une autre couche de verre, conducteur, et vous avez une surface qui éclaire. Et avoir une surface qui éclaire de cette façon-là, pour le monde de l'habitat, ça change complètement les choses. Vous pouvez faire des choses flexibles, donc vous pouvez faire des rideaux qui éclairent. Vous pouvez faire des surfaces d'immeubles ou des sols qui éclairent. Donc vous pouvez à la fois faire des luminaires comme vous en avez l'habitude, faire des murs qui éclairent ou faire des sols qui éclairent. Et ça peut vous donner des choses assez bizarres de ce type. Et vous pouvez voir qu'une chose qui reste importante, c'est le fait que cet éclairage va s'intégrer de façon différente du passé à l'intérieur de votre bâtiment. Et puis, comme c'est un éclairage électronique, vous pouvez changer la couleur et vous pouvez choisir la couleur de l'éclairage qui vous plaît. Donc voilà des choses qui arriveront dans le futur. Bien. Le stade nautique de Pékin était éclairé avec des LED, et d'ailleurs, là, il y avait plusieurs couleurs, il n'y avait pas couleur bleue, vous aviez possibilité d'éclairer en rouge ou en vert. Voilà des choses donc, qu'on peut faire avec les éclairages modernes. Bien, donc je voudrais simplement maintenant revenir, pour terminer mon exposé, avoir un peu de temps pour débattre avec vous, terminer sur ces histoires de maisons d'habitat anciens, qui utilisaient des méthodes modernes en quelque sorte. Alors je reprends mon discours. Lorsque il n'y avait pas accès au pétrole, au gaz, au charbon, lorsque la seule source d'énergie était le bois, et qu'il fallait en plus économiser parce que vous n'aviez pas des ressources de bois infinies autour de vous, parce qu'on ne cultivait pas le bois, on le ramassait. Eh bien, l'être humain était confronté à des variations climatiques qui sont les mêmes que celles d'aujourd'hui, des fois plus rudes, et a construit des habitats qui, parce qu'ils n'avaient pas justement de chauffage et d'accès à l'énergie, ont pris en compte des effets que je vous ai déjà décrits un petit peu dans ma conférence et qui sont des effets qu'on essaie de retrouver avec des matériaux modernes. Alors ici, typiquement, vous avez quoi? Vous avez des gens qui ont troglodytes, qui ont construit des habitats dans des caves et qui ont utilisé le fait que la température de la cave était constante pour ne pas en hiver avoir trop froid et ne pas en été avoir trop chaud. Et c'est une des propriétés de ces maisons qui sont à l'intérieur de ces cavernes d'être moins sujettes à des variations de température que les mêmes maisons qui seraient à l'extérieur. Donc on a un exemple de maison qui met en œuvre la même chose que l'on a vu tout à l'heure dans le puits canadien. Ces maisons-là sont des maisons en Afrique qui mettent en place, alors je ne vous ai pas fait la partie sur les transitions de phase que j'aurais pu faire, donc je vais vous donner l'information tout de suite, mais vous avez tous ça en tête. Ce sont des maisons qui, dans un pays très chaud qui est en Afrique, pendant la nuit, l'eau se condense dans l'argile. C'est des maisons en argile. Et pendant la nuit, l'eau se condense dans l'argile, ce qui fait que l'argile est humide au matin. Quand ensuite le soleil vient taper sur la maison, cette eau qui a été condensée dans l'argile s'évapore. Et vous avez tous, peut-être, que quand l'eau s'évapore, ça se refroidit. Vous savez ça probablement parce qu'il y a des systèmes de réfrigération qui sont simplement basés sur l'évaporation de l'eau. Quand vous avez simplement un ventilateur qui fait évaporer de l'eau, vous rafraîchissez l'air qui va avec. Puis il y a quelque chose qui est connu, au moins des gens qui font du camping, c'est la vache à eau. Vous savez peut-être que dans une vache à eau, l'eau est perméable, les parois sont textiles perméables. Cette eau s'évapore et maintient l'eau fraîche à l'intérieur, au détriment d'en perdre un peu. Donc c'est des méthodes pour garder de la fraîcheur. Donc si vous préférez, ce sont des maisons climatisées, à l'époque où, évidemment, même en Afrique, on n'a évidemment pas de climatiseur. Et alors l'igloo est un habitat particulièrement astucieux qui met en œuvre en fait des phénomènes physiques assez compliqués. Alors je vais passer assez vite là-dessus parce que je ne veux pas rentrer dans les techniques, mais essentiellement l'igloo il est fait à partir de la neige et pas du tout de la glace. Et pourquoi c'est fait à partir de la neige? Parce que la neige est un matériau isolant, parce que c'est un matériau poreux, exactement comme la laine de verre ou le polystyrène expansé. Vous pouvez isoler un habitat avec de la neige. Simplement, il faut que ce soit évidemment dans un habitat où il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur, pas trop froid. Donc l'igloo, il fait zéro à l'intérieur, l'air est à proche de zéro, et à l'extérieur, il fait moins 40. Mais zéro, c'est quand même beaucoup mieux que moins 40. Déjà, c'est quelque chose. Et pour ça, vous avez la neige qui sert d'isolant, mais il se passe aussi un phénomène assez rigolo, c'est que le matériau poreux n'est pas suffisant pour isoler. Parce que le matériau poreux, l'air peut passer quand même à travers. Donc pour faire un bon isolant, il faut un matériau poreux et une membrane qui empêche l'air de passer. Et la membrane dans l'igloo, c'est en fait une pellicule de glace qui se forme parce que quand vous rentrez dans l'igloo, votre corps rayonne de la chaleur, ça fait fondre la neige en surface, qui se recondense en glace au contact de la neige, et vous avez une fine pellicule de glace qui vient isoler, empêcher l'air de traverser le matériau poreux qui est la neige et garder les propriétés d'isolant. C'est quelque chose que vous retrouvez dans les techniques modernes d'isolation où vous mettez de la laine de verre et une membrane pour bien isoler votre maison. Et alors, la beauté de l'igloo, c'est qu'en plus, il se passe quelque chose de très impressionnant. C'est quand vous rentrez dans un igloo, vous n'êtes pas à 0 degré. Vous êtes à 16 ou 17 degrés. Votre corps a l'impression d'être à 16 ou 17 degrés. Et il l'est réellement. Même si vous mesurez avec un thermomètre l'air, il fait 0 degré. Pourquoi vous avez ça? Parce que votre corps rayonne de l'énergie, puisque vous savez que votre corps chauffe, quand vous allez dans une petite salle et que vous restez 3 heures dans une petite salle avec vos collègues, vous ouvrez les fenêtres, même si c'est pas chauffé, parce qu'il fait chaud. Vous dégagez de la chaleur. Dans l'igloo, vous rentrez et vous dégagez de la chaleur. Je vous ai expliqué que cette chaleur permettait de faire la plus fine de glace qui permet d'empêcher l'air de circuler. Mais ça permet de faire quelque chose d'autre. Cette chaleur que vous rayonnez vous est renvoyée par les parois de l'igloo parce que le paroi de l'igloo diffuse, et c'est pour ça qu'il est blanc, diffuse les rayonnements de la lumière, y compris l'infrarouge. C'est-à-dire y compris les rayonnements que vous émettez quand vous êtes autour de vous parce que vous êtes chaud. Donc, ce matériau a la propriété tout à fait intéressante du fait que l'énergie de chauffage que vous rayonnez contre le mur vous est renvoyée sur vous-même par les parois. Et en fait, vous réabsorbez votre propre rayonnement.
Autrement dit, les murs vous chauffent par rayonnement parce qu'ils vous renvoient votre propre chaleur. Et ça, ça vous permet d'avoir une impression de chaleur qui est bien meilleure que celle de la température pure. Et c'est ce phénomène, et je ne l'ai pas décrit parce que c'est une des parties dans lesquelles je suis passé un peu vite, que l'on met en œuvre dans les vitrages modernes, où on met des couches pour pouvoir justement renvoyer cette chaleur sur les habitants et leur donner une impression de confort qu'ils n'ont pas avec les vitrages classiques. Voilà. J'ai fini ma présentation. Je ne veux surtout pas qu'on passe trop de temps maintenant. J'aimerais beaucoup qu'on ait quelques questions sur quelques sujets où je peux essayer de débattre. Donc n'hésitez pas à intervenir. Juste quelques mots sur Saint-Gobain. C'est une entreprise qui est une très grande entreprise. Il y a plus de 200 000 employés qui est présente dans 54 pays. Et d'où qu'on s'accompagne, puisque j'ai l'honneur d'être le responsable de la recherche de cette entreprise, nous consacrons environ 400 millions d'euros à la recherche, avec environ 3500 personnels de recherche partout dans le monde. Voilà. Donc j'ai terminé. J'avais quelques slides sur l'histoire de Saint-Gobain, etc., que je ne veux pas présenter, parce que je préfère qu'on ait un peu de temps pour débattre. N'hésitez pas à me poser des questions sur un certain nombre de sujets que j'ai abordés ou sur d'autres. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.